Bonjour à tous et bienvenue dans le 10e épisode du Forumcast, le podcast de forum.com. Je suis l'intrigant Adiboy et je suis comme d'habitude entouré de mes deux acolytes, le mystifiant Metal Neo.
Bonjour.
Et l'exigeant Travis.
Coucou.
Au programme de ce 10e épisode, comme d'habitude, nos actualités de ces deux dernières semaines, qui seront ensuite suivies de tout un sujet sur les séries de l'été. Et enfin, si on a le temps, un petit aparté sur l'E3 qui s'est déroulé il y a très peu de temps.
Ouais, ce week-end, ouais.
Voilà, exactement. Donc, au niveau des actus, je vais commencer. Voilà,
fais-toi plaisir.
Je prends le lead.
Régale-toi.
Et donc, je suis allé au cinéma, très chers auditeurs, pour aller voir le 5e épisode de la saga Pirates des Caraïbes.
T'infligé, comme tu aimerais dire.
Je me suis encore une fois infligé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on commence à avoir l'habitude. Donc, Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, avec toujours Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow.
Ce serait bizarre, quelqu'un d'autre quand même.
Exactement. Et donc, en grand méchant de cet épisode, nous avons Javier Bardem qui incarne donc le fameux capitaine Salazar. Dans les têtes connues, on retrouve Geoffrey Rush qui est une fois de plus le capitaine Barbossa.
Ouais.
Et on a deux nouveaux personnages en fait. L'un qui est, et c'est dit dès le départ, le fils de Will Turner et d'Elizabeth Swann, donc les personnages d'Orlando Bloom et de Keira Knightley, des trois premiers épisodes, qui est maintenant grand. Et Karina Smith, incarnée par Kaya Scodelario, qu'on a déjà vu dans la série Skins.
Et dans les labyrinthes aussi.
Et dans les films du labyrinthe, tout à fait. Et donc voilà, l'histoire tourne autour de la vengeance de Salazar concrètement. Donc un ancien capitaine espagnol qui s'était juré de mettre fin à la piraterie dans les océans et qui, par le truchement d'une ruse de Jack Sparrow alors jeune, s'est retrouvé coincé dans une espèce de triangle des Bermudes maudits duquel lui et son équipage ne peuvent sortir tant que Jack ne se sépare pas de son légendaire compas qui lui indique voilà ce qu'il désire le plus. Au niveau des bons points, on retrouve cet univers caribéen très très coloré,
luxuriant,
c'est joli, c'est luxuriant, voilà, ça fait penser à l'épisode Black Flag d'Assassin's Creed une fois de plus quoi. Donc voilà, c'est cool, visuellement ça va. Après, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Honnêtement, c'est une série qui s'est essoufflée. Déjà, je trouvais que le troisième épisode n'était pas
en deçà, quoi,
pas exceptionnel. Il était en deçà, même s'il permettait de clôturer la première trilogie. Le quatrième était vraiment pas terrible, malgré la présence au casting de Ian McShane, qu'on retrouve actuellement dans American Gods et de Penelope Cruz. Mais là, c'est vraiment pousser la machine pour engranger encore de l'argent. Alors Johnny Depp, il en a plus rien à foutre maintenant. C'est alors on peut ajouter ça au
c'est
fait
acquis, quoi.
qu'en plus il a des problèmes d'alcool. Mmh. Concrètement, d'après ce que j'ai entendu dire, le tournage a été chaotique en grande partie à cause de lui. Il se réveillait à 16h avec des gueules de voix pas possible quand il était pas encore bourré de la veille. Enfin bref, ça a pas été facile. Même des personnages que j'adorais comme Barbossa, donc Geoffrey Rush, ils sont même là, on sent qu'ils sont là pour, ils sont venus pour cachetonner concrètement. Et c'est dommage parce que la série a réussi à développer une espèce de lore, toute une mythologie derrière avec ces histoires de pirates, avec des vaisseaux qui ont, enfin des bateaux qui ont tous des noms, le Queen Anne's Revenge, le Black Pearl, tout ça. Et en fait, il exploite un peu, mais de façon très maladroite, et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Donc, c'est un film qui est très, très orienté pour les enfants, là, vraiment. Mais et je crois que ça pourra leur plaire qu'à eux, parce que honnêtement, je l'ai vu il y a quoi ? Je l'ai vu il y a 4 jours, je m'en souviens presque plus. Il n'y a pas une scène d'action qui m'ait marqué. Il n'y a pas une scène émouvante. Le film m'a tiré deux sourires pénibles sur toute sa longueur. Et en plus, il est long, il dure 2h10. Au bout d'un moment, tous les quarts d'heure, je regardais ma montre en me disant, bon Dieu, c'est bientôt fini. Non, il y en a encore pour une demi-heure de film. Je vois pas. Enfin,
d'accord. Bon. Il n'y a que Javier Bardem qui tire un petit peu son...
Non.
Même pas.
Même pas. Même pas. C'est dommage, parce que quand on a un acteur de la classe, avec la classe et le charisme de Bardem, on se dit qu'on peut en faire quelque chose, mais non, honnêtement, il est vraiment pas terrible, quoi.
Dommage.
Donc voilà, c'est pas une réussite.
À oublier.
C'est à oublier. Le prochain que je vais voir, c'est La Momie, normalement, si tout va bien.
Prépare-toi à être déçu encore une fois, quand même.
Ça semble s'annoncer comme pire que les films de Brendan Fraser.
Mais
qui pour moi n'étaient pas des références à la base.
Oh, La Momie 1 et 2, ils étaient cool.
Ça va, non, franchement, pour l'époque, ça allait, quoi. On était encore dans une époque où tous les films autour n'étaient pas que des films médiocres, ce qui fait que ça sortait un petit peu du lot, c'était pas des grands films, mais ça restait des films à spectacle très intéressants, quoi. Enfin, au niveau des effets visuels de l'époque et tout, c'était...
Voilà. C'est cool. Je suis pas fan de l'acteur à la base, je préfère encore largement Tom Cruise.
Brendan Fraser, ouais, oui, c'est sûr que moi, je le connaissais pas avant, et quand tu vois sa filmographie d'avant, il est plus l'abruti de base que le héros, quoi.
George de la jungle
et compagnie. Ouais. Bon, mais après, ils étaient sympas, voilà.
Tu nous diras.
Donc voilà, je vous dirai La Momie. Mais bon, il y a mon petit bébé.
Je pense que je sais déjà ce que tu vas nous dire, mais on verra.
Il y a mon petit bébé Tom Cruise, donc je suis prêt. Je pars avec un a priori positif. Voilà.
Mon petit bébé Tom Cruise.
Non, j'adore.
Est-ce qu'il est sur ta bucket list ou
Non.
Je tiens à dire à tous nos auditeurs qu'il rougit. Hein.
Il rougit. Ouais. Non.
C'est un nom qui voulait dire oui.
Nous verrons bien. Laissez la police faire son travail dès que j'aurai de plus en plus d'informations. Croyez bien que vous en serez les premiers informés.
D'accord.
Je vais laisser la parole à Travis, du coup, pour son actu.
Oui, mon actu, c'est Twin Peaks, le grand retour de la série culte. La série qui m'a marqué quand je l'ai vue. Je l'ai vue pas à l'époque où elle a été diffusée, je l'ai vue après. Et je dois avouer que je suis déçu. Parce que ce n'est pas le retour de Twin Peaks, c'est pour moi une autre série. Sans rentrer dans les détails...
Eh oui, parce que malheureusement, certains d'entre nous n'ont pas vu encore Twin Peaks et veulent absolument le voir, vu ton engouement pour la série.
Tout à fait. Les deux premières saisons, ça n'enlève rien à la qualité des deux premières saisons, qui étaient géniales, et du film qui a suivi, film préquel, mais qu'il faut le voir après avoir vu les deux premières saisons, Fire Walk With Me, superbe film visuellement. La musique, l'ambiance, c'est exceptionnel. Très bizarre, hein, c'est du Lynch.
Ah, ben
c'est
ça.
Plus bizarre que même les deux premières saisons de Twin Peaks, mais sublime. Et là, pour le coup, c'est David Lynch qui revient et qui est...
En roue libre,
complètement, selon moi. Après, on sent que derrière, il y a quand même une intrigue plus ou moins construite. C'est jamais construit clairement avec Lynch, hein. C'est toujours un petit peu...
Décousu.
Décousu volontairement, voire flou. Voire mythologique au sens le plus pur du terme, j'ai envie de dire. Sauf que là, je comptais sur Mark Frost, qui est un autre créateur de la série, pour le canaliser. Et au final, j'ai l'impression que les deux sont aussi perchés l'un que l'autre.
Ouais.
Et il y a plein de choses très intéressantes, il y a plein de scènes mémorables déjà. Mais dans l'ensemble, je ne retrouve pas l'atmosphère de Twin Peaks. Et... Sans donner des infos sur l'intrigue, pour situer, ça se passe très peu, voire pas, dans Twin Peaks. Sur les 5-6 premiers épisodes, ça se passe pas dans cette ville. Donc on voit très peu, voire pas, les personnages qui ont fait le succès, pour moi, de la série originale. Et c'est ça qui me déçoit, parce qu'il y a plein de bonnes choses, encore une fois. Mais je retrouve pas Twin Peaks. J'ai l'impression de voir une autre série qui a des qualités, mais qui du coup moi me déçoit parce que c'est pas ce que j'attendais pour l'instant. Alors il y a 18 épisodes de commandés, je crois,
de
que
prévu.
18.
Oui. C'est Lynch beaucoup, qui a fait le forcing pour en avoir autant. Et c'était ça ou rien.
Pendant
un moment, la production était arrêtée, la série ne se faisait pas parce que Lynch avait dit je veux tant d'argent. Et sinon, personne ne le fait. Les acteurs avaient suivi en disant non, il n'y a pas de Lynch, pas de Twin Peaks.
Et là, on en est quoi? 6, je crois.
6 ou 7, je ne sais plus, mais j'ai vu les derniers en date.
Ah ouais?
Et
c'est bizarre de faire une série en 18 épisodes et de la diffuser maintenant. Si tard, en général, c'est plutôt des...
Elle est diffusée quand ils ont... Enfin, le plus tôt possible après la fin de la production, qui a été du coup un peu longue. Bon, après, c'est Showtime, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont cette liberté-là. Mais du coup, vraiment, pour l'instant, une déception plus qu'une satisfaction, même s'il y a encore, une fois, plein de choses intéressantes visuellement, niveau sonore, On retrouve un petit peu certains persos, mais c'est insuffisant pour moi.
D'accord.
C'est dommage, ouais. Après, ouais. Bon, ça enlève pas mon envie de voir la saison 1 et puis après d'enchaîner avec la saison 2 et
ouais,
celle-ci.
Pareil,
enfin, je veux dire, maintenant, je suis très intrigué.
Ça reste à voir, hein. Reste à voir parce que c'est tellement... C'est original et j'adore généralement tout ce qui est original. Mais là, c'est bien d'être original, mais j'aurais préféré qu'il y ait quand même le cœur de la série qui
est-ce que
qui
tu as l'espoir quand même que d'ici la fin, vu qu'il reste un bon nombre d'épisodes, ça puisse boucler et te surprendre et revenir sur ce à quoi tu t'attends plutôt que...
C'est une très bonne question. De par l'intrigue, qui est spéciale et qui... Je ne parle pas de l'intrigue, mais qui deal avec les conséquences de la fin de la saison 2, j'ai espoir qu'après un tiers de saison...
Ça y revienne.
Ça revienne. Bah, un tiers, on y est presque, hein, mais j'espère la moitié de saison. On revienne à quelque chose de plus proche du Twin Peaks saison 2 et saison 1. Alors donc plus centré sur cette ville, sur ces personnages qu'on retrouve avec des nouveaux. Il y a un casting de guests incroyable. Hein. On a un peu d'ailleurs l'impression que c'est la galerie des amis de Lynch et compagnie. Il y a du Baltazar Getty, il y a du Amanda Seyfried. Quelques-uns, ils étaient annoncés clairement, hein, c'est pas un spoiler, mais il y en a plusieurs par épisode et avec des rôles plus ou moins importants. Certains d'ailleurs, on a l'impression qu'ils viennent juste pour faire coucou. C'est un peu too much. Et c'est too much à tous les niveaux et un peu trop kitsch parfois. Donc moi, j'ai vraiment du mal. Mais je m'accroche et je garde espoir.
Ouais, ok.
Ok. Eh bien, gardons espoir. Donc, on va voir ce que ça donnera. Du coup, Metal Neo, petite actu.
Alors moi, mon actu, elle date un petit peu maintenant, mais on n'en a pas encore parlé. Et je pense qu'il serait temps de le mentionner, vu qu'en plus, il y a polémique autour de cette série. Moi, je voulais mentionner le retour avec la saison 2 de Sense8.
Voilà.
Qui avait aussi, il me semble, à la période de Noël, sorti un film un peu, ou un double épisode en attente de la saison 2.
Qui était bien ?
C'était sympa. Ouais, c'était pas mal. En fait, c'était sympa parce que... Ça lançait un petit peu l'intrigue de la saison 2. Ça remettait un peu les choses dans le contexte. Et ça lançait légèrement où était chacun des personnages et où leur histoire allait peut-être aller. Et possiblement, ça plantait un peu les prémices d'un fil rouge pour cette saison 2. Donc voilà, je l'avais regardé à l'époque, j'avais trouvé ça assez sympa. Et voilà, j'attendais, pas avec impatience, mais j'attendais quand même la saison 2, parce que, voilà, si on doit revenir faire une rétrospective rapide sur la saison 1, moi, c'était une saison qui m'avait plu. Je l'attendais avec impatience, parce que je suis quand même assez fan de l'univers des Wachowski.
Ouais, Wachowski, ouais.
Et j'aime pas tout ce qu'ils ont fait, mais je suis fan de leur vision sur les choses. Je veux dire, ils ont toujours un parti pris visuel, ou même dans la narration, qui fait qu'il y a toujours quand même quelque chose d'intéressant à voir dans ce qu'ils produisent.
Ça, c'est certain.
Et donc j'étais curieux de cette série avec le pitch de départ et tout ça. Ça m'avait l'air un contexte assez sérieux, mais toujours avec ce côté un peu fantastique qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, la saison 1 était sympa, c'était pas révolutionnaire, mais moi j'avais bien aimé comparé à plein d'autres personnes qui n'avaient pas forcément aimé, qui avaient trouvé ça pas terrible. Il y a des défauts, mais j'avais bien aimé. Donc j'attendais un peu de voir cette saison 2 où ça allait amener les personnages. Et j'étais pas déçu. Je l'ai pas fini. Il me reste, je crois, les deux derniers épisodes, donc je sais pas comment ça se termine. Mais j'ai bien aimé là où la plupart des personnages étaient emmenés. Ceux qui étaient lésés en saison 1 sont un petit peu plus exploités en saison 2.
Ouais.
Et c'est même mieux parce que à la limite, on pouvait se dire dans la saison 1, ils sont pas intéressants, ils sont nuls et tout ça. Et au final, ils le sont mieux. Ouais. Et ceux qui étaient intéressants dans la saison 1, on va dire, ils ont été délaissés dans cette saison 2. Et c'est ceux qui sont devenus plus, à la limite, pas intéressants.
Est-ce qu'il y avait pas trop de personnages à la base ? Trop de personnages principaux ?
Peut-être. En fait, c'est vrai que le défaut de la saison 1, c'est que y avait 8 personnages principaux à développer qu'ils ont pris le temps au départ dans le premier épisode de développer les 8.
Tous les montrer. Ouais.
Moi, je pense qu'à l'époque, on va pas revenir trop sur la saison 1, mais à l'époque, il aurait été plus intéressant de développer un ou deux personnages par épisode. Je sais pas, je suis pas un professionnel, je sais pas si c'était viable ou pas, mais ça aurait été plus facile à digérer plutôt que dans un seul épisode déjà annoncer tes 8 personnages et commencer à les structurer.
Ouais,
c'était lourd. C'est vrai que ce premier épisode était assez lourd à prendre. Donc maintenant qu'on est dans la saison 2 et qu'on connaît plus ou moins tous les personnages, ça passe mieux. Et on va pas se focaliser sur les 8 personnages au sein d'un épisode, on va se focaliser sur 3-4 qui ont un lien commun et tout ça. Mais ce que j'ai surtout apprécié là dans cette saison 2 pour le moment, c'est qu'il y a un fil rouge un petit peu plus intéressant. Il était quasiment absent du premier, de la première saison. Travis, toi tu as vu la première saison. Hein.
J'ai vu le début de la première saison, j'ai vite décroché. Malheureusement, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur les personnages. J'ai pas accroché avec les personnages, je les ai trouvés fades et pour la plupart.
Oui, oui.
Alors il y a deux exceptions, c'est l'acteur mexicain gay.
Exact, c'est pour moi le plus intéressant.
Lui et la transsexuelle, si j'ai pas de bêtises.
Nomi.
Enfin voilà.
Oui, oui.
Et qui avait des vraiment des. Alors lui, il amenait l'humour, et le côté décalé, et elle avait vraiment quelque chose de lourd au niveau drama, qui par exemple, au hasard par rapport à l'indienne.
L'indienne, clairement.
Alors, dans la saison 1, l'histoire de l'indienne, vraiment, c'était n'importe quoi. À la limite, l'un des autres personnages que j'aimais bien, mais qui était sous-exploité, c'était l'allemand, qui lui avait un côté.
Il était allemand ou russe ?
Allemand. Il est à Berlin.
Ok.
Moi,
j'étais déçu par l'allemand. Par lui, en tout cas.
Je trouvais que son histoire avait du potentiel.
Le potentiel était là, mais je trouvais qu'il ne se passait rien.
Comparé à d'autres histoires, par exemple, l'histoire du flic,
Le flic, il fait que croiser la DJ, puis c'est tout.
Exactement. Ouais. Voilà. Et dans la saison 1, à la limite, le fil rouge de la saison 1 est basé sur lui et donc l'islandaise. Donc, c'est l'histoire plutôt qui leur arrive qui est intéressante. Là, dans celle-ci, on voit à quel point ils ne sont pas super intéressants, ces deux personnages. Par contre, ce qui est génial, c'est que les autres sont un petit peu plus exploités, notamment le Mexicain... Enfin, il leur arrive des choses beaucoup plus sympas. Même la coréenne, là, il lui arrive un peu. Il y a des choses qui se passent après ce qui se passe
à la
saison 1.
Il y avait du potentiel, mais là aussi j'étais déçu. Je trouvais que.
Après, si t'as pas vu la fin de la saison 1, il lui arrive des choses. Ce qui fait que son histoire l'emmène quelque part où ça devient un peu plus intéressant et ça se développe encore un petit peu dans la saison 2. Voilà, donc le voyage que font chacun de ces personnages, ça va peut-être pas encore assez vite. Mais c'est un petit peu plus intéressant parce que certains personnages deviennent un petit peu plus exploités. Et dans cette saison 2, je trouve que le fil rouge de l'univers de ces personnes, donc qu'on appelle les sensoriums, ou je me rappelle plus, les sensitifs en français, donc ces personnes qui ont une connexion et une empathie et donc une connexion entre personnes d'un même cluster, ça se développe un peu. Y a un petit peu de backstory et tout ça. Donc là, c'est l'aspect intéressant. Ayant dit tout ça, maintenant, le couperet est tombé et apparemment, c'est terminé.
C'est pas apparemment, c'est terminé sur Netflix. Il y a eu récemment confirmation qu'il n'y avait pas de reprise. Pour l'instant, tout peut arriver. On avait déjà vu pire. Enfin, plus gros.
C'est jamais les Wachowski peuvent toujours trouver quelqu'un pour avoir de l'argent quelque part et le finir.
Très connus et qui ont du poids dans le.
C'est pour ça que je dis apparemment.
Mais en tout cas, c'est très mal parti pour et ça a fait grand bruit.
Exactement.
Parce que Netflix n'a pas l'habitude d'annuler des séries.
Oui.
Cependant, ils l'ont déjà fait pour Marco Polo, ce qui m'avait beaucoup plus déçu. Ils l'ont fait un petit peu avant pour la série de Baz Luhrmann qui s'appelle The Get Down.
Ouais, The Get Down, ils l'ont annulé aussi.
Tout à fait. Donc, ça ouvre une plus grande question qui est-ce que Netflix est voué à être aussi tranchant que la Fox, que ABC, que les gros networks? Voire que les chaînes du câble américain qui elles aussi se gênent pas pour annuler
On peut se poser la question surtout de se dire que au point où on est arrivé Netflix maintenant et à la notoriété qu'ils ont, ils vont de plus en plus produire, je vais pas dire tout et n'importe quoi parce que ils ont quand même toujours cette particularité d'essayer d'aller vers de la qualité et de l'originalité, mais à force, une fois qu'on a 15 scripts face à soi, on choisit, quand on a pas autant d'argent, on choisit le premier et le deuxième. Quand on en a beaucoup plus, on choisit le troisième, le quatrième et le cinquième. Mais est-ce que ceux-là sont pas moins puissants que les autres, que l'audience après ça elle est pas au rendez-vous et que Netflix a cette capacité de dire on paye, on va pas payer plus, on est capable d'arrêter maintenant, on arrête et on se concentre
non,
que
ça,
sur les nouveaux projets.
Non mais ça je comprends qu'ils aient plus de choix, mais le contrat implicite qui était, je pense, dans la tête de beaucoup de gens abonnés à Netflix, c'était on ne termine pas une série abruptement, on ne l'annule pas sans qu'il y ait de vraies fins. C'était le cas pour Bloodline, qui est une série avec Kyle Chandler,
il n'y a pas Tom Selleck aussi dedans ou je
Non,
c'est ça Kyle... c'est Blue Blood.
Blue Blood qui est sur CBS.
Oui, c'est ça, Kyle Chandler.
C'est une série plutôt sympa, avec d'ailleurs le méchant de Rogue One.
Oui.
Gandalf. Non,
directeur Krennic.
Ouais, Krennic, mais il me fait penser à Gandalf, je ne sais pas pourquoi.
En tout cas, il y avait cette série qui ne marchait pas très bien. Ça se sentait. Et Netflix ne révèle pas ces chiffres, mais on le savait. Et ils ont quand même donné une troisième et dernière saison à cette série. Là, je pense que le problème de Sensei, c'était le budget.
Ah oui, elle
coûte. C'est vrai que ça doit coûter la. Ça doit coûter la
peine. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de couper un petit peu la saison, de faire une mini-saison, de faire un téléfilm de fin pour satisfaire les fans, parce que là, ils ont quand même, ils se sont mis plein de monde à dos quand on voit les réseaux sociaux suite à l'annulation.
On voit qu'au final, Sense8 était quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, était quand même une série suivie et qui était quand même appréciée d'une large majorité de personnes aussi, parce que quand on voit toute l'actualité que ça, que cette annulation a suscité, c'est un peu fou, quoi.
C'était une série, je pense, très symbolique de par toutes les personnes qui y sont représentées.
Tout à fait, c'est vrai qu'on y représente
que là, ils
un peu tous les gens.
Ils ont pas forcément bien choisi leur façon de faire. Même si moi, personnellement, comme je disais tout à l'heure, elle ne me parlait pas.
Ça te choque pas. Moi, ça me choque un peu, juste dans le sens où voilà, j'ai pas fini la saison, il me reste deux épisodes. Mais j'ai bien peur que là, la saison va se terminer en queue de poisson avec une ouverture pour une saison 3, et qu'on va pas l'avoir, et ça va surtout vu que je trouve que le fil rouge de la saison 2 devient intéressant. Si c'est pour ne pas avoir de conclusion, je vais être assez déçu. Je le suis déjà de me disant bon voilà, c'est une série que je suis et que j'aimais bien, donc je suis déjà déçu. Mais si en plus de ça la saison 2 ne va pas se terminer avec une fin correcte, ça va être encore pire, quoi. Donc voilà mon actualité.
Ok,
très bien. Eh bien, on va pouvoir passer au sujet des séries de l'été. Je vais laisser la parole à Travis qui a sa petite liste avec lui, parce que moi, je dois vous avouer que je ne me souviens pas de toutes.
On a quand même vu les trailers. Hein.
Oui, on a vu les trailers.
On a vu les bandes annonces qu'on partagera dans le poste. Et du coup, on va les passer un petit peu par ordre chronologique en partant
de sortie.
De sortie, en passant par la, en commençant par aujourd'hui.
Ça, il y en a une qui démarre aujourd'hui là.
Non, je dis aujourd'hui, mais je me suis rendu compte en le disant que c'était pas du tout ça.
C'est pas du tout le cas.
Ouais.
Peut-être à l'heure où ce podcast sera diffusé.
Voilà,
ça sera
le cas, mais... déjà, faut voir quand il sera diffusé, etc. Donc, on va commencer par Blood Drive, qui est diffusé le 14, donc je crois que c'est aujourd'hui, et du coup je remets...
C'est ça,
voilà.
c'est aujourd'hui, exactement, voilà. Donc c'est ça, bien. Mais ce sera déjà passé, mais oui, c'est aujourd'hui.
Oui, la diffusion. On est le 14, mais vous ne serez pas le 14.
Non.
Bon, voilà. Blood Drive, est-ce que l'un de vous peut nous en parler? Je sens...
Alors, vu la kitschitude, moi je dirais... Adiboy.
Juste pour préciser, c'est une série sci-fi. Donc déjà, moi, j'ai plus trop d'attentes sur les séries sci-fi depuis très longtemps. Hein. La dernière vraie grosse série pour moi, c'était Battlestar Galactica.
Ouais.
Et même Caprica, je trouvais que c'était en dessous déjà. Bon, voilà.
D'accord.
Et là,
là, du coup, on se situe dans un univers post-apocalyptique à première vue.
On dirait, quelque chose comme
un truc bizarre, dans lequel les voitures, il n'y a plus d'essence, très Mad Max, mais les voitures roulent maintenant avec des cadavres et du sang, d'après ce qu'on voit, quoi. On fout des gens ou des morceaux de gens dans les moteurs des voitures et c'est ça qui les fait rouler.
Alors, est-ce que c'est ça qui les fait rouler ou est-ce que c'est juste des voitures hybrides, mangeuses d'humains? J'ai pas capté, moi, ça sur la bande-annonce, mais bon, enfin. Première chose que j'ai vue, c'est un moteur avec des dents, quoi.
Moteur avec des dents, voilà.
Et une femme qui ressemblait étrangement à du Megan Fox de Transformers.
Oui, tout à fait.
Qui plongeait quelqu'un dedans.
C'est voilà. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est face à un produit. Moi, au début, j'ai cru que c'était une espèce de fausse bande-annonce Grindhouse.
Tout à fait.
Mais je pense que c'est clairement
assumé, en fait.
Oui, assumé.
C'est assumé. Je me demande même si dans une bande-annonce, ils ne mentionnent pas Grindhouse, il n'y a pas quelqu'un qui est lié à Grindhouse. Mais dans tous les cas, on est dans du Grindhouse, voire
de la parodie
de la pastiche.
Pastiche qui a l'air clairement assumé.
Ouais, je sais pas, c'est en tout cas le genre série
Z, le ton
est
clairement
assumé
là-dedans.
Et volontaire. Donc il faut aimer le genre, je pense. Mais pourquoi pas, en tout cas ça sera original, on n'en voit pas tous les jours des comme ça.
Non.
En série, du moins, oui, pour une série c'est extrêmement original.
Après, mais le problème, c'est que autant ce genre de délire, ça peut bien passer sur un film d'une heure trente,
ouais, voilà.
1h30, 2h maximum. Sur une série, oh là là, je
suis perplexe. Surtout que ouais, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller dans tous les sens. Bon, c'est du, comme on disait, c'est du grindhouse, donc c'est pour choquer, mais ça va allier vraiment sexe,
sexe, violence,
sang,
gore,
et voilà. Et
mais est-ce qu'on peut vraiment montrer du sexe et du gore très gore sur la sci-fi? Je crois pas.
Ce sera du gore ridicule.
Ouais,
le gore
ce sera des fontaines de sang.
Oui,
voilà,
exactement.
Des fontaines,
c'est ça.
Pas kilbilesque, mais bon. Voilà. Bah, mais
quasi,
ce sera
hein.
pas forcément.
C'est Boulevard de la Mort et compagnie, hein, quand même. Hein.
Oui, oui, non, mais le kilbilesque, pour moi, c'est kilbil. On sent qu'il y a un tuyau derrière qui propulse le sang.
Tout à fait.
Mais, et là, pour le coup, je pense que c'est un petit peu plus réaliste que ça. Non pas que je critique kilbil, mais je pense que c'est plus du grindhouse. Sans aller. Je pense qu'ils iront pas aussi loin dans le gore.
Oui, probablement pas, mais bon, enfin, moi, ça m'a pas séduit, quoi.
Bon, juste la présence au casting de Alan Ritchson, qu'on avait déjà vu, je crois, en Aquaman, dans la série Smallville, et
ah
qui
bon
jouait aussi dans Blue Mountain State.
Oui, que j'avais pas du tout aimé, mais qui avait pas mal de gens qui...
Ouais, moi j'aime bien.
Ça avait l'air décalé, enfin, sympa, rigolo.
C'était débile.
Voilà, débile.
C'est absolument débile, mais voilà, donc... Oh, Blood Drive, ouais.
Ouais, voilà, bon, si vous êtes fan du genre,
sur
quoi.
10, une note d'attente sur 10, on lui met
Moi, ça m'intéresse
non,
pas.
Non, moi, je mets 6 parce que ça m'intrigue. Je pense que je finirai jamais la saison, c'est pas possible.
Ouais.
Mais j'aime bien ce genre de pilote qui change. Ouais. Donc, je mets les pilotes par défaut, et là, pour le coup, je pense que je peux être surpris. Donc,
okay.
Pas en bien ou en mal, l'un ou l'autre, mais voilà.
Je lui mets 4,89.
Pas mal.
Je suis très précis. 4,89.
Ah oui.
Voilà,
ça rien que pour faire chier, en fait.
Bah oui. Et les gens se débrouilleront pour faire les moyennes après. c'est pas mon problème. Bien.
Allez, next.
Prochaine série.
The Ranch. Une comédie Netflix.
Saison 2, donc.
Saison 2.
Il y a déjà une saison 1.
Il y a déjà une saison 1. C'est une comédie avec...
Danny Masterson.
Danny,
monsieur, ou ex-monsieur Moore.
Voilà, Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher.
Steve Jobs pour
Steve
les intimes.
Jobs. Donc, clairement, une série.
Une comédie très, très, très classique.
Ouais.
J'ai vu que le pilote et franchement, j'ai pas ri. Ce qui est décevant parce que les deux acteurs ils sont plutôt faits pour les comédies.
Tout à fait. Bah, quand vous savez d'où ils viennent et d'où leur amitié est née, je pense peut-être même cette série, hein, ça vient de 70's Show, où c'est là où ils sont connus, où ils ont fait la plupart de leur fin d'adolescence, et peut-être qu'ils ont envie de continuer à faire un projet ensemble parce que ça leur manquait, donc ils voulaient un peu revenir à cette source-là.
Et là ils jouent deux frères qui se retrouvent, qui sont très différents. Il y a leur père qui doit être un acteur connu, mais Sam Elliott, voilà.
Sam fucking Elliott.
Un beau casting, mais pour moi, l'écriture.
Les rires sont pas au rendez-vous.
Je suis pas, en tout cas, sur le pilote, donc c'est peu pour
juger.
Je
regarde quand même.
Mais je la conseillerais pas personnellement. Alors, pas du tout même.
Ok, note d'attente sur 10.
Moins 14.
D'accord.
Bah, moi, à la limite, juste pour me faire un avis quand même du ton. Il faudrait que je revienne en arrière et que j'aille voir au moins le premier épisode de la saison 1, parce que bon, là, c'est la saison 2. Donc, je vais y mettre un 5, juste parce que j'ai la curiosité de voir qu'est-ce qu'ils font ensemble, ces deux-là, maintenant. Quoi. Parce que j'étais fan de 70's Show, quand même.
Du coup,
très fan.
Je change mon moins 14 en moins 24.
D'accord.
24, comme la série
Comme la série 24 Legacy,
qui a été annulée.
Qui a été annulée, elle aussi.
Voilà.
Qui veut dire à quel point c'était mauvais?
Moi, je l'avais dit. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'était pas hyper mauvais, mais c'était insuffisant.
Et parce qu'il n'y a pas Jack Bauer.
Non, c'est pas lié.
Ça, c'est
et
moi qui l'avais dit.
Moi aussi,
ça,
hein, moi aussi j'avais dit que ça ne pouvait pas vivre
mais
sans lui.
Ça ne prouve rien. Ça prouve juste que cette série-là, avec ses scénaristes et ses scénarios pourris.
C'était les mêmes scénaristes, c'est le même mec.
Mais
qui
oui,
était
mais
au...
de toute façon, 24 était pourri depuis un certain temps. Donc,
ça marchait.
Bon,
enfin bon, passons. Ne rentrons pas.
Donc, bon, moi, je lui mets la note. Je lui mets la note de fer à cheval sur 20. Voilà.
Faire à cheval.
Voilà, parce que j'ai vu aucun épisode, mais j'aime bien Bad Savage.
Il m'inquiète de plus en plus, Addy Boy, quand même. Il m'inquiète de plus en plus.
Addy Boy n'a, à notre connaissance, rien consommé avant le podcast.
Oui.
Peut-être aurait-il dû, mais...
Des rillettes de porc.
C'est vrai.
Des rillettes de porc. Elles étaient pas mauvaises d'ailleurs.
On se croirait dans un de ces contrôles de philosophie, je sais pas si vous faisiez pareil, où à l'avance donner des mots à placer.
Ah oui, cucurbitacée et Nutella. Ouais. C'est pas facile à placer.
Et celui-là, il est pas évident. Ouais.
Moi, j'avais placé je et la philosophie.
T'as réussi à placer ça ?
Ouais, bien. Moi, j'ai eu.
T'as eu
0,
non ?
J'ai eu 4 à mon bac.
En philo, c'est pas mauvais, 4. Bon, on dérive un petit peu, je crois.
Nous dérivons.
Ouais, du coup, c'est pas grave, je pense pas qu'on va nous en, qu'on va
nous en tenir.
Ouais. Puis... Rigueur.
Rigueur, exactement.
Allez,
passe au samedi 17 où il y a Turn, une série AMC qui a l'air sympathique, mais que je n'ai jamais regardée, et vous non plus, je pense. Une série sur la Révolution américaine qui revient pour sa quatrième et dernière saison. On passe. J'en passe certaines. Il y aura tout le détail dans le post Café Alda que je vous mettrai en lien.
Super.
The Mist. Ah, The Mist.
The Mist.
Ah.
Une série de.
Tiré de l'univers du bouquin de Stephen King à première vue.
Comme Under the Dome, c'était le cas aussi, non ? C'était
pas un jeu qui jouait. Mais on va éviter de mentionner Under the Dome.
Voilà, c'est pour ça que The Mist, là, de ce que j'ai vu du trailer, ça a l'air génial, mais est-ce que ça va faire un peu comme.
Moi, le trailer m'a pas forcément.
Pas génial, après. Ça a l'air intéressant.
Un peu déçu, même. Hein.
Enfin, ah ouais ?
Ouais, j'ai trouvé ça. Alors, ça a l'air très. Sans concession, pas de censure ni rien.
Oui, contre, c'est vrai. Ouais.
Mais bon, il me manque un petit peu l'ambiance, ça a l'air insuffisante pour l'instant.
En fait, je ne connais pas assez, de toute façon, l'univers. Je ne suis pas un gros fanat de Stephen King pour être non plus hyper excité à l'idée de.
Tu n'as pas vu le film de Frank Darabont qui est sorti dans les années 2000 avec.
Il faut me dire un nom, là.
Qui y avait de connu, celui qui joue Thomas Jane jouait dedans.
Non mais le nom du film ce serait bien.
The Mist. C'était déjà une adaptation.
C'est une série d'un film.
Je pense pas qu'elle est.
Non mais je veux dire ça a déjà été fait en film.
Oui ça a déjà été fait en film et le film est vraiment très très bon.
Tu vois à quel point je connais pas l'univers de Stephen King.
Je te conseille.
Malheureusement, il y a pas mal de choses qu'il a fait qui n'ont pas été bien traduites au format de télé, voire cinéma. Hein.
Il y a un truc, par contre, là où je diverge, mais ça sera intéressant. Il y a un truc où je suis excité, par contre. J'ai entendu il y a pas longtemps un scénariste, je vous donnerai pas son nom, il n'est pas hyper connu, mais que je suis en podcast, qui a été employé sur une série qui va s'appeler Castle Rock, qui est une série. Qui va regrouper tous les différents personnages principaux de Stephen King.
Ah oui, j'ai vu.
Ça va être un mélange un peu.
Il y avait un teasing.
Exactement, il y avait juste un teasing.
Castle Rock.
Et Castle Rock, c'est une ville, je crois, emblématique d'un bouquin de Stephen King, lequel je pourrais pas vous dire, j'y connais rien.
Et dans le teaser, on voit des. Je sais pas si on voit des mots ou des voix qui. Reprennent des dialogues connus
de
différentes
œuvres. Et en fait, c'est ça. Ça va prendre tous les personnages. Alors, ça pourra peut-être prendre, je ne sais pas, mais ça pourra prendre Carrie, ça pourra prendre.
Le Gunslinger.
Ça pourra tout reprendre et faire une série un peu à la Once Upon a Time, sans rentrer dans le côté cucu, mais en mélangeant plein de trucs de, plein de personnages de l'univers de Stephen King. Donc ça.
Du Once Upon a Time avec du Stephen King, ils sont très forts.
Oui,
ils sont très forts.
Mais donc, bon, voilà, ça, je suis curieux, par contre, une fois que ça sortira, notamment pour la personne que j'aime bien en podcast et pour le côté univers étendu.
C'est vrai que le teaser n'était pas forcément très bien produit, mais en tout cas le concept est sympa.
Ça a été annoncé par King et par Stephen King et par J.J. Abrams.
Oui, d'ailleurs,
c'est une production.
C'est lui le mec pas très connu que tu suis sur.
Non, c'est pas lui.
Non, c'est pas lui. J'espère.
J'avais oublié qu'il faisait partie du projet, mais oui.
Voilà. Et c'est produit par Hulu.
Voilà, Hulu. Hulu qui peut-être est en train de se réveiller, on l'espère. On parlait de Viand Maestel. Qui est vraiment, j'ai continué, c'est très très bien au passage.
Donc voilà. The Mist, note d'attente sur 10.
Sur 10, pareil, un 5. Juste par curiosité.
Moi, je mettrais un 7. Parce que je suis curieux, mais encore une fois, je prends plutôt un 6,5.
8,24 pour moi.
Oh là là.
8,24.
Okay. 8 fois la série 24. Ça fait beaucoup, hein.
8,25, c'est bon.
Oh là là.
Ok, on passe. Il y a The Night Shift aussi, mais bon, on va passer rapidement. Glow.
Alison Brie, c'est bon. 10, 11, 10. 12 sur 10.
Non, mais moi, ce serait vraiment clairement un 9 sur 10.
Ouais,
Glow,
ça
c'est une
bien.
Série sur une actrice qui se présente dans un casting qui est en fait un casting d'un film un peu bizarre sur des femmes qui font du catch. On peut difficilement l'expliquer différemment.
Il faut dire que c'est basé années 70, c'est voilà, rétro. Merci,
effectivement, c'est un détail important.
Oui.
Le rôle principal, c'est Alison Brie de Community,
oui.
qu'on aime,
à la folie.
Oui. Et en plus, elle est belle même avec cette coupe de cheveux un peu
ouais,
regarde.
Ses lunettes.
Elle arrive à être au top.
Elle est vraiment top. Il y a elle et il y a l'actrice blonde qu'on voit un petit peu dans American Gods.
Betty Gilpin là, qui joue.
Voilà, Betty Gilpin, merci.
Oui, non, je triche. J'ai le téléphone à la main.
Betty Gilpin qu'on voit dans American Gods. Qui joue la
femme
du meilleur ami de
Shadow.
Ah oui, ok. Voilà. Et plein d'actrices pas très connues. On retrouve un acteur de Veronica Mars, dont le nom m'échappe, mais bon, il était dans la saison 2 ou 3. Et donc, un casting intéressant, surtout grâce à Alison Brie.
Un ton décalé
voilà,
un petit peu.
Directement, on parlait de l'ambiance de The Mist qui n'était pas forcément claire. Là, l'ambiance, elle est top directement. Ouais. On sait ce qu'on regarde, on sait que ça va être drôle et déo.
C'est ça.
Je ne sais pas si ce sera une vraie comédie où on va rire toutes les 30 secondes, mais en tout cas, l'ambiance m'intéresse.
Ça avait l'air drôle, mais même, j'ai l'impression aussi que la comédie ne va pas forcément venir que des personnages principaux, mais surtout aussi du cast autour, quoi. Comme, je crois que dans la bande-annonce, il y en a une qui pense que c'est pour des films de cul, ou de suite, elle est prête à enlever son haut parce qu'elle pense que c'est ça.
C'est ça.
Ou plein de trucs. Enfin,
il va y avoir des situations.
Je pense que ça va être très drôle et que ça va... L'ambiance est, comme on dit, bien posée, quoi.
Ouais.
Ça ressemble bien aux années 70 et tout ça. Ça a ce côté... Enfin, je sais pas.
Moi, j'adhère vraiment. Je mets un 9.
9,12.
Oh, tu m'as pris le 12. J'allais dire 8,12, moi, tu vois.
Le 12 n'est pas réservé. Hein, voilà.
Non, mais bon, c'est bizarre qu'il ait pensé au 12, tu vois.
Vous avez peut-être
c'est la moitié de 24.
C'est ça, c'est la moitié de 24, en fait.
Oh, purée. Donc, OK. Donc, grosses attentes.
Grosses attentes.
OK. On passe à Preacher.
Oh.
Preacher, on a déjà parlé dans le podcast.
Ton attente de l'année, toi.
Mon attente de l'année, tout à fait.
Bon, la mienne aussi, un peu dans un sens. Hein, mais...
Avec une saison 2 qui sera donc un road trip assumé.
Voilà. C'est ce qui avait été annoncé, de toute façon.
C'est ce qui est un petit peu, voire beaucoup, le...
Qui revient aux comics. Quoi,
mais exactement, c'est ce que, en plus, Seth Rogen et Evan Goldsmith avaient annoncé, dans le sens où voilà, ils avaient pris la liberté de diverger en faisant cette première saison, mais pour planter un décor différemment de comme les bouquins l'avaient fait, pour ensuite partir sur exactement les histoires et les arcs des bouquins. Donc bah, moi j'attends avec impatience cette saison 2.
Donc, Preacher le 25, Glow c'était le 23 juin.
Ok.
Donc là une note.
Putain, c'est cool, la fin du mois va être.
Ouais. Netflix, ils nous gâtent en ce moment. Il y a Orange et House of Cards.
Vous avez vu là derrière la petite pub de Orange is the New Black avec Nabila?
Oui, mais je vois que c'est pas une pub, c'est un vrai extrait.
La question se pose.
Est-ce que c'est est-ce qu'elle fait vraiment partie de la saison 5?
Non, moi je pense qu'elle a fait
une featurette pour la France.
Elle a fait un guest.
Enfin,
je
yes.
crois. C'est okay. ce qui était annoncé à l'époque.
Ceux qui la regardent nous le diront.
Moi, je la regarde, mais j'ai pas commencé, mais je vais la regarder parce que c'est une très très bonne série. Faut vraiment lui laisser une chance.
C'est très cool.
C'est très cool.
Donc une note quand même pour
Preacher. Je lui mets. J'ai mis combien, 9,15.
T'as mis 9, 12 ou 15.
Non, je l'attends quand même un petit peu moins parce que la saison 1 m'a quand même un petit peu déçu.
Ouais,
je vais lui mettre la note de 8,64.
D'accord.
Sur 10.
Ah, moi,
c'est déjà bien.
Moi, c'est un 9,5.
D'accord.
Moi, je suis à 7,5. Je suis un peu resté sur ma fin et j'attends. J'ai besoin de mieux parce que, il y a tellement un gros potentiel que là, je l'ai trouvé un peu. Pas saboté, mais il faut plus.
On aura une meilleure idée après le premier épisode.
Voilà.
Je pense.
Ok.
Du coup.
On enchaîne ?
Ouais.
On enchaîne avec Gypsy, sur lequel on va passer assez rapidement. C'est une série Netflix avec Naomi Watts.
Ouais.
Naomi Watts qu'on retrouve aussi dans Twin Peaks, pour info, avec un rôle important.
Cool.
Une habituée de Lynch. Hein.
Oui, tout à fait. Gypsy, ça a l'air d'être centré sur une psychologue qui a des problèmes psychologiques ou pas, on ne sait pas.
Qui fait tout un laïus sur le professionnalisme.
Qu'il ne faut pas franchir
certaines limites et qui est clairement dans les images.
On a compris qu'elles allaient être franchies.
Exactement. Moi, le pitch de départ ne m'intéresse pas plus que ça.
Ouais, moi je mets 5-5.
Ouais.
Et je peux être agréablement surpris. Mais
ouais,
je
mets un 4, mais juste parce qu'il y a Naomi Watts, quoi.
Ouais, enfin, Naomi Watts, bon.
Vu que c'est une série sur les psys, je lui mets la note de 10 sur 10.
De comment ?
Divan.
Divan.
Ou canapé.
D'accord,
tout
okay.
dépend. Voilà. Ah ouais. Canapé ou divan sur 10.
T'aurais pu dire Freud aussi.
Non, c'est moins rigolo. C'est moins drôle.
C'est possible.
Divan
tu veux qu'on en parle ?
Je lui mets divan sur 10.
Est-ce que tu veux
parlez-moi de votre enfance.
C'est ça.
Parlez-moi de votre
Freud
enfance.
Est donc moins drôle qu'un canapé. Ce sera à retenir.
Ça, c'est
de
sûr,
cette...
oui. C'est
pourtant,
sûr
il en a sorti
beaucoup...
des conneries.
À mon avis, c'est beaucoup moins drôle qu'un canapé, oui.
Ok. On passe à Killjoys. Là, il n'y en a qu'un parmi nous qui regarde vraiment.
Ah,
c'est
et on, à la limite, on peut grouper. On peut dire Killjoy et Dark Matter qui a
alors, Killjoy,
commencé la semaine dernière.
Ce sera le 30 et Dark Matter, c'était la
ça
semaine dernière.
Ça a commencé la semaine dernière déjà.
Si Killjoys.
En fait, juste pour résumer vite fait, c'est deux séries SF.
Ouais.
Voilà, ça se passe dans l'espace, sur des planètes, avec des équipages de vaisseaux spatiaux. Voilà, l'une, c'est un côté plus mercenaire qui se font... engagés pour faire des missions, et l'autre c'est des ex détenus ou pas détenus mais des criminels qui ont tous perdu la mémoire, et qui du fait qu'ils ont perdu la mémoire, et peut-être qu'ils sont plus des criminels, peut-être qu'ils sont gentils, mais ils sont rattrapés par leur passé. Dans les deux cas, pas des séries exceptionnelles, mais des séries très sympas quand même à regarder durant l'été.
Ça a l'air.
C'est pas mal produit, c'est pas génial. C'est du niveau un peu de Stargate Universe et tout ça, tu vois. C'est le même producteur.
Ouais, je vois très très bien.
C'est des séries sci-fi. Hein,
c'est sci-fi,
c'est ça,
et d'ailleurs,
voilà.
Dark Matter, c'est vraiment. Il y a plein de personnages de Stargate qui font
d'accord.
des guests, c'est les mêmes équipes de production et tout ça. Donc, c'est on va dire des suites sans être dans le même univers. Mais ça se laisse regarder. Et voilà, Killjoy, c'est très sympa aussi, mais voilà, ça casse pas des briques.
Bon,
mais
les amis,
ça se consomme.
J'ai une mauvaise nouvelle.
Oui.
C'est qu'on va la faire en deux fois, celle-là.
Ouais.
Parce que là, on n'est pas du tout dans les temps. Je le dis honnêtement. On est sur la fin juin, on n'a fait ni juillet ni août.
Et il reste encore beaucoup.
Et voilà, et malheureusement, nous sommes, pour des raisons personnelles, on va dire un peu limités dans le temps. Donc on le fera en deux parties. Ça sera la partie 1.
D'accord.
Et on fera la partie 2 au prochain podcast, si ça vous va.
Ok. Mais c'est d'abord, on leur met une note. Deux
séries. Ah oui.
Ah ben moi je vais comme je les suis, je vais leur mettre une note de 7. Okay. 6 7 ouais parce que c'est des séries que j'aime bien.
Alors Killjoy, j'avais vu le pilote, c'était pas mal mais pas transcendant, je vais mettre 4. C'est pas mauvais mais j'ai pas accroché donc je peux pas mettre la moyenne. Et Dark Matter pareil, je vais mettre 4. Je crois que j'avais vu le pilote aussi mais il m'a pas marqué donc 3 ou 4.
Moi je leur mets la note de l'endroit où je pense qu'ils vont atterrir, je leur mets donc la note de TNT sur 10.
Tu penses qu'ils vont être transférés sur la chaîne TNT, mais c'est fou.
Non, mais ça, ça a l'air d'être des séries de TNT.
Mais attends, tu sais que toutes les chaînes sont sur la TNT.
Oui, non, mais je veux dire les.
Non, mais là, il y a une chaîne qui s'appelle TNT aux États-Unis.
Ah, il y a une chaîne qui s'appelle TNT. Merde, je savais pas.
Il y a aussi une compagnie de transport, hein, mais.
Alors, je leur mets la note là, de.
C'est là, partant de là.
Non, mais. Il faut qu'on arrête ce podcast au plus vite.
Je remets la note de C8 sur 10.
Alors, voilà.
C8.
On va excuser qu'en fait, il fait très chaud là où nous sommes.
C'est vrai qu'il fait très chaud, je suis en train
On commence à dire un peu n'importe quoi. Peut-être que ça vous fait rire. Peut-être que...
Alors, on devrait le faire, comme d'ailleurs Sadie Boy qui avait l'idée, mais on devrait le faire en étant un petit peu...
Bourré.
Parce que c'est vrai que j'en ai vu des comme ça. Et c'est
pourquoi pas,
simple.
Surtout que des trois personnes qui font ce podcast
ne boivent
pas du tout, ça peut être très rigolo.
Mais cependant, pour nous, parce que c'est Metal Neo et moi-même, on prend un verre, on est déjà pas mal peut-être.
Bah, non, je pense qu'il m'en faudra un deuxième quand même. J'arrive à tenir un verre, je pense.
Okay.
Après, ça dépend quel alcool. Si tu mets un alcool.
Okay.
Bon, en tout cas, avant de finir, est-ce que tu veux peut-être pas annoncer
si.
Les gagnants ?
Je vais annoncer les gagnants. Alors, je vais le faire et puis vous allez un petit peu combler parce que les gagnants sont sûrement Nordic qui est à côté.
D'accord.
Mais je connais deux noms. Le gagnant du site qui s'appelle Ray Sim qui a gagné le coffret Homeland.
Bravo.
Bravo. Félicitations.
Bien joué. Merci d'avoir écouté le podcast.
Merci à tous les participants.
Participé.
Je passe au gagnant Twitter qui s'appelle Mimi Auvergne.
Ouais.
Je m'en souviens parce que c'était.
Tu crois que cette personne habite dans l'Auvergne, tu penses ?
Ça serait logique.
Ça serait logique. C'est
elle gagne
si
la.
Picardie, c'est un peu embêtant.
Elle gagne l'autre coffret qui était.
Ah.
Un beau coffret.
Ah.
Blu-ray.
Tu tu te rends compte que cette personne, elle attend avec impatience que tu lui dises bah, qu'elle a gagné.
C'est l'autre coffret, il y avait trois cadeaux. Là, il y a deux lots, c'est des Blu-ray. Bah, c'est l'autre Blu-ray, ça doit être Brick. Je sais pas. Si... Non, c'est House of Cards, voilà.
Saison 1.
C'est le saison 1. C'est plutôt pas mal pour commencer les séries.
Ils ont de la chance, nos auditeurs.
Et donc, comblé pendant juste 10 secondes.
Ouais.
Ok, et donc, du coup, il est en train de se lever. Il est son PC. Je suis en train de le narrer. Travis ne se rendait pas compte que ce geste allait aller créer un continuum, un trou dans le continuum espace-temps. Et le voici de retour.
Très mauvais en comblerie.
Oui, c'est vrai, on n'a pas été très bon.
Sabrina Gill qui gagne donc la pop Daryl avec un bazooka. Parce que Daryl, c'est cool. Un bazooka, c'est cool. Mais Daryl avec un bazooka. C'est
double effet qui se coule.
Il n'y a pas mieux. Donc voilà.
Cool.
Et on essaiera de refaire un petit concours. On en fera aussi sur le site sans passer par les podcasts. Mais on va en faire des par les podcasts.
Ok.
Et d'ailleurs, on aura peut-être des annonces sur deux choses qu'on va couvrir incessamment sous peu.
Ah oui, petit teasing.
Teasing, ça commence par. C'est en deux mots, ça commence par un C à chaque fois.
Voilà.
Exactement.
Et c'est en juillet.
Putain, on dirait une scène post-générique d'un film Marvel. C'est trop cool. Bravo les gars, bien wesh.
Ouais, à la limite, on en parlera au prochain. Ouais.
Du coup, on en parlera au prochain podcast. On vous remercie une fois de plus de nous suivre et de nous écouter. On espère qu'on vous aura fait rire, qu'on vous aura renseigné et que vous serez au rendez-vous pour la suite, tout simplement. En attendant, on vous fait de gros bisous.
Bisous, bisous.
À bientôt.
À très bientôt. Ciao.